saturé. Donc voilà, donc je m'appelle Bentayba Azdine, je suis nord-africain d'origine, maghrébin. Pour plus de précision, eh bien du pays d'Algérie. Donc voilà, je suis arrivé à 2 ans et demi ici, et puis j'ai grandi dans les quartiers. Donc c'est vrai que j'avais des parents vraiment tout ce qu'il y avait de plus, tout ce qu'il y a de plus formidable, hein, qui ont tout fait pour qu'on réussisse. Bon, c'est vrai que moi j'étais l'aîné de la famille, et quand on est rentré d'Algérie, il fallait qu'un petit peu je suive mon père et puis l'aider à construire un petit peu notre famille. Et j'avais 2 sœurs qui sont venues juste après moi et un frère aussi. Donc eux ont très très bien réussi, mais c'est vrai que ma mère et mon père disaient toujours, eh bien celui-là, on n'a pas pu s'en occuper, hein. On ne pouvait pas faire autrement, on est rentré d'Algérie, hein, donc on a fait un petit peu ce qu'on a pu avec lui, mais c'est vrai que les conséquences après ont été un petit peu désastreuses, puisque je suis tombé dans ce qu'on appelle la toxicomanie, et j'ai commencé donc par le shit, qu'on appelle, donc à l'âge de 22-23 ans, et puis après ça a été l'escalade et l'héroïne pendant 10 ans. Donc j'ai été toxicomane à l'héroïne pendant 10 ans, et puis bien évidemment, dealer d'héroïne aussi, et je suis rentré dans toutes ces complications. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à m'en sortir. Il est arrivé à un moment donné, j'ai dit, si jamais je pouvais me sortir de là, je faisais 48 kilos à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Hein, donc c'était la mort peut-être par quelqu'un qui m'aurait peut-être tiré dessus ou quoi, ou je ne sais quoi, ou alors peut-être tout simplement eh bien, physiquement être trop fatigué ou faire une overdose. Donc je sentais que ça allait être bientôt la fin pour moi. J'avais à ce moment-là 33 ans. Et il y avait un copain d'enfance, un copain de quartier avec qui j'avais fait les 400 coups. Il s'appelle Richard Fallot. D'ailleurs, aujourd'hui, d'ailleurs, la prochaine fois que je vais l'appeler, je vais parler de toi parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment un frère, on est vraiment unis. Et il est pasteur maintenant en Suisse, à Lausanne. Le pasteur Richard Fallot, vous pouvez taper sur l'ordinateur, vous verrez Richard Fallot. Hein, il prêche la parole aussi dans les quartiers. Et puis, c'est un gros motard et il prêche la parole aussi aux motards. Et ça faisait un petit moment qu'on ne s'était vu, et puis j'avais vu sa maman quelque temps avant, et puis j'avais dit, quand vous verrez Richard, vous lui direz que j'ai besoin de lui parler. Et donc Richard vite s'est pointé à la maison, si je peux m'exprimer ainsi. Il est venu, il m'a dit, alors qu'est-ce qui se passe à Sdine? Ça fait des années qu'on ne s'est pas revu. J'ai dit, oui. J'ai dit, voilà, tu sais, ça ne s'arrange pas, je suis aujourd'hui toxicomane à l'héroïne, et voilà comment je vis, et voilà ma situation aujourd'hui. Et j'ai dit, parce qu'il m'avait quand même partagé, excusez-moi, l'évangile. Peut-être 10 ans avant, il venait de rencontrer son épouse, une américaine, et puis c'est comme ça qu'il s'est converti, lui, et puis il m'avait partagé l'évangile avec son épouse. Et puis moi, c'est vrai que je me suis dit, mais j'ai pas besoin de Dieu, puisque moi, de toute façon, je suis musulman, je connais Dieu, ça pose pas un problème. Mais c'est vrai que j'avais vu une lumière en lui qui m'avait quand même interpellé, quelque chose qui m'avait attiré, voyez? Et ça, c'était quelque chose qui était resté. Et même au bout de 10 ans, j'ai dit à un moment donné, vu là dans la condition dans laquelle j'étais, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Et j'étais parti même en Algérie pour essayer de décrocher l'héroïne. Ma tante avait fait tout ce qu'elle avait pu, beaucoup d'amour pour moi. Et elle m'avait présenté des imams, elle m'avait présenté des marabouts, tout ça. Alors c'est vrai que je décrochais physiquement. Et puis quand je revenais à Toulouse, eh ben, j'étais en pleine forme physique, mais dans la tête, j'étais le même. En train de mentir. Toujours pareil, parce que quand on est toxicomane, on ment. Je mentais sans arrêt, et puis j'étais bien content d'être en forme parce que j'allais continuer à reprendre de l'héroïne encore plus qu'avant. Dans la tête, j'étais exactement le même. Mais je savais au fond de moi, du fait que j'avais rencontré Richard et ce que j'avais vu en lui, cette lumière, cette façon dont il m'avait parlé, je savais que c'était Jésus-Christ qui allait me sauver. Et j'ai dit un jour à ma tante, j'ai dit, tu sais, c'est pas la peine d'insister, il faut arrêter, c'est Jésus-Christ qui va me sauver. Elle m'a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Et puis, je suis parti à l'hôpital, parce qu'à un moment, j'avais vraiment exagéré, donc je suis parti à la clinique des Cèdres pour décrocher l'héroïne, et puis là, j'ai sauté un mur de 5 mètres, je me suis sauvé, donc j'ai vu que là aussi, c'était pas la solution. Et puis, je vous dis, donc, je reviens à ce contact avec Richard Fallot, qui m'a dit, bon, écoute, tu sais, peut-être que le Seigneur, effectivement, peut te sauver. Il peut-être te délivrer. Alors j'ai dit, est-ce que le hasard existe? Il m'a dit, non, le hasard n'existe pas. J'ai demandé, est-ce que la chance existe? Il m'a dit, non, la chance n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu. Et la chance, c'est Dieu. Alors, à partir de là, j'ai dit, écoute, s'il me guérit, j'ai dit, je crois que je lui serai fidèle. Parce que j'avais tellement de fois, j'étais revenu à mon vomi que, si vous voulez, pour moi, je me suis dit peut-être que ça ne sera pas possible. Et puis, juste à ce moment-là, c'était l'été, juste avant le 15 août, mon père me dit, écoute, et ma mère me dit, tu voudrais pas nous amener en Espagne, parce qu'on va aller sur Alicante, et puis on voudrait passer quelques jours de vacances, mais tu sais, j'ai des problèmes au bras, et je ne peux pas conduire la voiture, il faudrait que toi tu m'amènes. Alors, vous comprenez bien que chez nous, dans notre culture, dire non au père, c'est vraiment très difficile. Alors imaginez un petit peu dans quelle situation j'étais, il fallait que je les amène coûte que coûte. Alors j'avais un docteur qui habitait juste à côté de chez moi, Wilson Wilfried. Alors c'est un Africain avec qui j'avais de très bonnes relations, mais je commençais un peu à lui casser la tête parce que j'étais tout le temps en train de lui demander de la morphine. Et là je suis allé lui demander de la morphine pour partir, pour amener donc mes parents donc, en Espagne. Et il me dit, écoute, j'en ai assez, Asdil, je ne te donnerai rien du tout, un de ces quatre, il va y avoir la police qui va venir chez moi, j'en ai assez. Et puis, je lui explique le cas, j'insiste un peu. Et puis, il me dit, c'est la dernière fois que je te donne ça. Et il m'a donné la morphine, parce que je ne pouvais pas prendre de l'héroïne avec moi, parce que si je me faisais arrêter sur la route avec mes parents, imaginez un petit peu le problème. Donc, je suis parti avec eux. J'ai pris une Bible, vous savez, les Bibles avec Ésaïe 55, en bas, Ésaïe 57. Et j'ai dit, si jamais tu me délivres, si tu me guéris, eh bien, je crois que je te suivrai. Donc, je suis parti avec cette Bible. On est arrivé à Alicante. Donc je me suis installé, mon père il m'a dit, voilà, ta chambre, si tu veux rester, tu peux rester. J'ai dit, non, moi demain je m'en vais, je reprendrai le train et puis je reviendrai vous chercher au bout des 15 jours. Et j'avais pris quand même avec moi donc la morphine, j'avais pris du 35-50, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50, hein. J'avais pris de la codéine, et puis dans la nuit, je me suis envoyé tout ça, l'incrédulité, et puis j'ai dit, on verra bien. Et puis je me suis envoyé tout ça, et le matin quand je me suis levé, parce que je n'avais pas pris de morphine quand même, j'avais pris juste de la codéine et ces choses-là, surtout du tranxène. Je me suis endormi, je me suis brûlé la cuisse avec une cigarette, parce que je fumais à l'époque. Et puis quand je me suis levé le matin, c'est vrai que j'avais aucun état de manque. Alors je dis, de toute façon, tu vas arriver à midi, ça va être la totale. Et puis plus ça allait, rien du tout. Arrivé vers le coup de 11h30 midi, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Mais alors rien du tout, seulement quand je parlais, je ne pouvais pas mettre un mot devant l'autre. Mais dans la tête, j'étais impeccable, vous voyez, je parlais, c'était incroyable. Mais dans ma tête et dans mon corps, j'étais vraiment impeccable. Et je ressentais la présence de Dieu, c'était incroyable. Du coup, je suis vite descendu, il y avait un bar qui était en bas de chez moi, j'ai dit, je vais prendre un peu de drogue douce maintenant, regardez l'incrédulité. Et puis je vais prendre, boire un petit peu, une bière, et puis je vais aller regarder la mer, parce que ça faisait des années que je n'étais pas retourné à la mer, vous voyez, parce que je ne pouvais pas. Alors, j'ai pris, j'ai vu un Espagnol, je lui ai demandé, j'ai acheté 50, je crois 50, je ne sais plus combien de pesetas de shit, et puis je suis allé au bord de la mer. J'ai regardé la mer, et puis Dieu me parlait, il me disait, maintenant Asdine, tu ne meurs plus. Je n'avais pas lu la Bible, hein. Asdine, tu ne meurs plus. Je voyais l'infini de la, vous voyez comment l'infini de la mer, quand on, hein, et il me disait, maintenant ta vie, ça va être comme ça. Mais alors, j'étais bien rempli de la présence de Dieu, je suis vite remonté, je me suis pris une douche, je me suis changé. Mon père est arrivé, je leur ai dit, je reste avec vous. Ils m'ont dit, bah, j'ai dit, oui, je reste avec vous, je vais passer ces 15 jours avec vous. Et de ce jour-là, le soir même, j'ai pris la Bible avec moi. Le shit, ça a été terminé dès le lendemain, la bière terminée le lendemain, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai dit, si un jour j'ai un enfant, si j'ai un garçon, je l'appellerai Esaïe. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon fils Esaïe. Et de là, je suis rentré sur Toulouse après 15 jours. J'ai passé du temps avec ma famille, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Je lisais la Bible tous les jours et puis alors quand je suis arrivé à Toulouse, je pleurais tous les jours, je me levais dans la nuit. Hein, je prenais toujours une petite tasse de café, je me rappelle, et puis je lisais la Bible et je pleurais tous les jours, je priais. Cela pendant, ça pendant un an et tout seul. Je ne connaissais aucun chrétien, à part Richard Fallot. Et puis un jour, Richard Fallot appelle ma mère, et moi je n'étais pas là. Elle me dit, tiens, il y a Richard qui a appelé, il a dit qu'il te rappellera. Et à l'époque, je vous dis, on faisait les 400 coups, alors on était dans un milieu un peu qui n'était certainement pas terrible, mais une parole, c'était une parole entre nous. Et comme il m'avait dit qu'il devait me rappeler, j'attendais le coup de fil. Et puis rien. Au bout de 8 mois, je dis, quand même, je vais téléphoner. Je demande le téléphone à sa mère. Je lui téléphone, je lui dis, tu vois, Richard, je suis là, ça fait presque un an que j'ai décroché l'héroïne, je lis la Bible tout seul, voilà, je connais aucun... Mais pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Il me dit, viens vite, il me dit, viens vite. Il était pasteur à Pontarlier, en Suisse. Et c'est comme ça que je suis parti en Suisse. Je suis parti en Suisse, j'ai passé une semaine avec lui. Alors on a échangé, on a commencé. Et c'est là qu'il m'a envoyé à la chapelle. Il m'a dit, écoute, je vais prendre contact avec la chapelle, et je vais t'envoyer à la chapelle que vous avez, place Saint-Georges. Donc je suis allé à la chapelle là-bas, j'ai rencontré le pasteur Morébine qui était à l'époque, il s'appelait Morébine. Et puis il m'a mis en contact avec Jim Ricker, un autre missionnaire. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre la parole de Dieu, à passer du temps avec lui. J'ai commencé à grandir avec le Seigneur, pas d'église, rien du tout. Hein. Et puis après, ce qui s'est passé, lui est parti pendant un an, il m'a dit « écoute, je te laisse la maison ». Donc je suis resté pendant un an dans la maison, j'évangélisais. Alors tous les toxicomanes que j'avais évangélisés, ils venaient. Dans la maison, il y en a qui sont convertis, on en a même dans l'église actuellement. Donc voilà, et c'est comme ça que le cheminement s'est fait. Puis ensuite, j'ai eu Samuel Boida qui m'a récupéré aussi. Et puis ensuite, bon, il y a la chapelle qui m'a rappelé. Alors c'est 3 ans après, hein, je vais vite. Et là, la Fédération protestante de France m'a demandé si je ne voulais pas faire des études. Donc ils m'ont payé mes études. Voilà, pendant 3 ans, je suis parti donc à Nogent-sur-Marne. Et ils m'ont payé mes études. Amen. C'était formidable pour moi. Hein. Là où le péché a abondé, la grâce a... Amen. C'est ça. Hein. Et puis, il est vraiment celui qui guérit. Parce que vraiment, il m'a guéri physiquement, psychologiquement et spirituellement. C'est incroyable. Je faisais 48 kilos. Au bout d'un mois, j'ai fait un footing avec mon beau-frère. Tout le monde dans la famille me dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, il m'avait guéri totalement. Pas un cachet, rien. Plus rien du tout. Même dans le coin, il disait, il est en train de préparer un coup. C'est pas possible. Voyez ? Et puis, donc voilà, je me suis même fait à un moment donné, et je me rappelle, il y avait des dealers d'héroïne qui étaient passés, parce qu'ils bon, ils voyaient que je ne leur demandais plus rien. Ils m'ont dit, écoute, Azine, on sait que tu fais un coup, c'est sûr, c'est des Libanais qui te servent, tout ça, tatati, tatata. Ils m'ont pris en voiture, et puis ils m'ont dit, écoute, on t'avance tant et tout. J'ai dit, vous savez, j'ai toujours pris la drogue parce que j'aimais ça. Mais je n'ai jamais fait ça parce que pour vraiment faire de l'argent. Parce que moi, j'étais obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir me la payer. Et je leur ai tout dit. Et pendant qu'ils parlaient, je me suis dit, à savoir comment ça va terminer, parce que je leur devais beaucoup d'argent, j'avais eu de gros problèmes avec eux, hein. Il faut savoir que c'est difficile. Eh bien, ils m'ont déposé place Wilson, je suis monté dans la voiture, ils m'ont déposé place Wilson, ils m'ont dit, salut, tu peux partir. Et il ne s'est rien passé. Et depuis, je ne les ai plus revus. Je n'ai plus eu affaire avec des gens comme ça. Voilà. Voilà mon témoignage, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Après, ma mère s'est convertie aussi. Elle a accepté le Seigneur. Ensuite, bon, j'ai eu ma consécration. Tu étais là. Il y avait mon père, il y avait mon frère, il y avait mes sœurs. Donc là aussi, j'espère que vraiment, eh bien, ça va continuer à travailler leur cœur. Ils savent que le Seigneur a changé ma vie, mais ils sont liés par un esprit qui est l'islam, même s'ils ne le pratiquent pas vraiment. On sent vraiment qu'il y a toujours, la culture est toujours liée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile pour moi, mais... Je persévère dans la foi, hein, comme le Seigneur nous le demande. Je persévère dans la prière, parce que nous devons persévérer dans la prière et persévérer dans le témoignage. D'ailleurs, mon message de tout à l'heure, j'espère que ça va vous encourager ou peut-être vous remuer. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Déjà, avec tous les événements qui se passent actuellement, vous le savez très bien. Donc, j'ai donné un message dimanche dernier. Quel est le centre de votre vie? Mais aujourd'hui, le message qui va être apporté, c'est est-ce que l'Église doit-elle encore enfanter? Vous savez que l'apôtre Paul parlait des douleurs, eh bien, de l'enfantement. Je m'arrête là.